marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Regardez-moi ça. Cette liberté.
L'État et la forêt, quelle forêt voulons-nous ?
J'étais en train d'admirer les chaînes 30 mètres de fût tout droit, sans une branche. Il y avait à mes pieds deux jeunes ingénieurs qui discutaient comme des bêtes. Ils s'engueulaient. De quoi s'engueulaient-ils ? Ils s'engueulaient pour savoir si de ce petit arbre gros comme mon pouce, ou à peine plus gros, et de tel autre, lequel serait le mieux fait pour faire un grand arbre comparable à celui qui était là et qui avait 200 ou 300 ans, planté du temps de Colbert. Cette dimension du temps, quasi-éternité, est une dimension que la forêt m'a apprise.
Les ministres de l'agriculture n'exercent pas toujours leur responsabilité forestière. Edgar Pisani, si, c'est lui qu'on vient d'entendre, c'est à lui qu'on doit la création de l'Office national des forêts en 1964. Pisani sentait profondément que la connaissance de la forêt changeait la mesure du temps. Il inscrivait donc son invention dans une tradition longue. Au temps des sacres, le roi promettait de prendre soin de son domaine forestier dans son serment. Et son administration des eaux et forêts date du Moyen-Âge. Colbert y appliqua sa grande réformation, le souvenir de ses plantations demeure. Le premier consul dicta une nouvelle loi fondamentale en 1801 et quand la Restauration rédigea le Code forestier de 1827, elle y faisait référence, comme à d'autres textes de la période révolutionnaire. La forêt, c'est la longue durée. J'ai pas dit l'éternité, comme Edgar Pisani. L'ONF gère les forêts domaniales de l'État et aussi la majeure partie des forêts des collectivités. Une des principales missions qui lui fut fixée en 1964 était de mieux les insérer dans le marché. Le produit de ces ventes de bois a longtemps représenté la part essentielle de ces ressources. Mais déjà la loi de 1801 du premier consul croyait, je cite, « les forêts indispensables pour soustraire les vapeurs de l'atmosphère et alimenter le cours des fontaines et des ruisseaux ». Deux siècles plus tard, en 2001, un nouveau texte qui redéfinit l'ONF insiste sur ce rôle, la protection de la biodiversité. La mission de l'ONF est triple en fait, produire, mais aussi protéger et accueillir, bien sûr. Aujourd'hui, notamment du fait des incertitudes du marché du bois, le financement de l'ONF devient très problématique. Les communes forestières brûlent de vendre elles-mêmes. Les industriels de la filière bois comprennent mal que l'Office ne se contente pas de produire, tandis que beaucoup d'écologistes et de journalistes des villes se désolent que l'Office abatte. À cet instant, tout est sur la table, y compris le démantèlement de l'Office, près de 10 000 employés encore, ou son rattachement à une grande structure nébuleuse vouée à la biodiversité. Rendez-vous de l'intersyndicale pour une grande manifestation à Épinal le 7 juin.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Paul Arnoul, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Alors vous n'allez pas parler en tant qu'ancien président du conseil scientifique de l'ONF auquel vous continuez d'appartenir. Vous êtes un homme des hauts, je veux dire que vous avez passé toutes vos vacances d'été dans les Vosges.
Un endroit qui s'appelait les Hauts de la Beuille, un joli point de vue sur la haute vallée de la Moselle.
C'est une des raisons peut-être pour lesquelles vous êtes devenu géographe, biogéographe comme on dit maintenant, spécialiste des forêts. On peut rappeler au plaisir des forêts chez Fayard.
Volontiers, j'en suis fier.
Et puis les forêts d'Europe, vous me disiez, c'est bien.
C'est bien, mais ça mériterait d'être remis à jour, c'est un peu vieux.
C'était chez Nathan, ben justement.
C'était au siècle dernier.
Nous, on va aller au mi-temps du siècle dernier, au début de la Ve République, quand le général de Gaulle quitte les forêts de la Haute-Marne pour rejoindre l'Élysée. Et son ministre Edgar Pisani va créer l'ONF. On va l'entendre de nouveau, Edgar Pisani, mais d'abord, essayez de nous expliquer comment se fait le rapport à cet instant T, c'est peut-être un peu le même rapport aujourd'hui, entre la forêt publique et la forêt privée.
Du point de vue des surfaces, c'est très déséquilibré. À l'essentiel de la forêt française appartient à des propriétaires privés. Et on a le record du monde de propriétaires privés, on en a près de 4 millions. Et en fait, dans ces 4 millions, il y en a vraiment 10 000 qui sont efficaces et qui ont des superficies suffisantes. Les autres sont des micropropriétaires. Les communes sont des grands propriétaires forestiers. Là aussi, sur les 46 000 communes qui existaient en France, il y en avait 10 000 à peu près qui avaient des surfaces forestières importantes, qui sont gérées par l'Office national des forêts. On dit qu'elles sont soumises au régime forestier. Et sur les 15 millions d'hectares de la forêt française, l'ONF n'en a que 10%, 1 million et demi d'hectares.
Mais
ça ne bouge pas depuis.
Il va avoir un rôle moteur une fois qu'il est sorti du cerveau d'Edgar Pisani, qui dit que chez les propriétaires privés, il y a un certain nombre de spéculateurs, mais qu'il y en a aussi qui sont de grands conservateurs. Et au premier, il faut rappeler les principes des seconds.
Je voudrais raconter une anecdote, mon invitation à une authentique duchesse. Et j'étais en débat, mais vif, pour ne pas dire violent, avec un jeune homme dont je devais découvrir qu'il était son fils. Et à un moment donné, il me dit, si je devais apprendre que la forêt doit échapper à la propriété de ma famille, je prendrais tout de suite l'initiative de tout abattre. Et j'entends dans mon dos la voix de cette dame, « Vous ne le feriez pas », dit-elle, en l'appelant par son prénom, « car vous n'êtes pas le propriétaire de cette forêt qui appartient à votre famille, vous n'en êtes que l'usufruitier élevé, la transmettre plus belle que vous ne l'avez reçue. » Et j'ai appris un jour que la famille du comte de Paris voulait vendre la forêt d'Arcambarois. Me voilà parti, je rencontre le comte de Paris, à l'hôtel Crillon, et je lui dis, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Et finalement, il a joué de son influence sur sa propre famille, ça ne s'est pas vendu, ça a été acheté ultérieurement par le département. De là, la position que j'ai prise par la suite sur les forêts de France, dont j'ai modifié le statut, à la fois en créant l'Office des forêts pour une gestion plus dynamique de la forêt domaniale, et en soumettant la forêt privée à une réglementation très rigoureuse.
Un fonds de gestion est demandé pour tous les propriétaires privés de plus de 25 hectares. C'était un extrait des émissions de Pisani avec Jean Lacouture, à voix nue, sur France Culture. C'est très intéressant, la relecture des mémoires de Pisani, notamment quand il dit que ça a été une bonne chose pour la forêt française de ne pas être intégrée dans la PAC.
Oui, c'est dans son livre de mémoire qui s'appelle
Vieil homme et la mer.
Vieil homme et la terre.
Et la terre, pardon.
Et la terre. Puis c'est sous-titré 9 milliards d'hommes à nourrir et puis la nature et les sociétés rurales à préserver. Donc c'était vraiment un peu à la fois un bilan de ce qu'il avait fait, puis c'était visionnaire. Et c'est vrai qu'il a complètement chamboulé le paysage institutionnel de la forêt française. Les forestiers privés en créant les centres régionaux de la propriété forestière, ou un certain nombre d'ingénieurs sortis de l'école de Nancy, de l'école forestière, qui a été créée presque en même temps où était créé le code forestier que vous avez évoqué tout à l'heure. Et il leur a imposé des PSG, vous disiez, les plans simples de gestion. Toutes les forêts qui avaient plus de 25 hectares devaient avoir un plan où on faisait l'état de la forêt. Est-ce qu'on voulait y faire les coupes, les aménagements, les changements d'essence éventuellement pour une période d'une vingtaine d'années? Et c'était un peu sur le modèle, l'administration des forêts de l'État, elle, avait des aménagements forestiers depuis le 19e siècle et qui prévoyaient justement la gestion de la forêt sur le long terme. Ça ne se gère pas comme un champ de betteraves, la forêt. Et on avait là donc le souci de faire bouger les lignes entre le privé et le public, les plans simples de gestion et les contraintes pour la forêt privée, c'était un peu sur le modèle d'une forêt publique qui marchait plutôt bien.
La forêt publique, elle est gardée, gérée par un corps forestier qui avait son uniforme, ses prérogatives.
Un corps militaire, oui, qui avait l'uniforme, le képi,
l'arme,
qui avait le droit de l'arme, oui.
Mmh.
Et donc, tout cela, c'était très, très codifié, c'était quelque chose d'assez rigide et c'était aussi un corps forestier qui était persuadé de son ultra-compétence et qui n'aimait pas trop qu'on mette le nez dans ses affaires.
Ultra-compétence, ça ne se gère pas comme un champ de betteraves, monsieur Arnoux. Et Antoine Chaud l'a appris, qui est allé dans un lieu ressource, voire des chaînes ressources, et qui a beaucoup appris sur eux et compris qu'on pouvait les abattre selon un plan de régulation.
Ah, il y en a un beau qui arrive là.
Ah oui, là.
Belle pièce, hein.
Une ressource.
Ça, c'est de la ressource.
Oui. Ressource rare, qu'on appelle.
Alors, c'est un chêne.
C'est un chêne. Alors, on n'annonce pas l'essence, le chêne. 75 C. Il sait que c'est un chêne. C, c'est la qualité C.
Ah ouais.
Voilà.
Ah, le chêne, lui, c'est le maître des bois, quoi. C'est ça, on n'a pas besoin de l'annoncer, quoi.
Non, non, on sait que on n'annonce pas l'essence. Le chêne, ouais, c'est comme dans la jungle, le lion. Sous les arbres de futaie, on enlève les perches de chambre qui montent dans les houppiers, parce qu'un arbre, plus il a de houppiers, plus il pousse.
Ouais, donc le houppier, c'est la cime, quoi.
C'est la cime, c'est les branches, ouais. Le fût, et après, on a le houppier.
L'idée, c'est de laisser celui-ci grandir, donc le chêne, ouais. Là. Il a quoi? Il a déjà une centaine d'années, celui-là, non?
Oh, il a peut-être 200 ans, hein.
Et il va encore rester là quelques centaines d'années?
Oh, peut-être pas quelques centaines d'années, non, il arrive à un diamètre quand même. 75, on l'exploitera peut-être le prochain tour, dans 10 ans.
Là-bas, si j'y suis en 2011, je pense que le tour du chêne approche là. Mais Antoine Chaot, il lui aurait bien donné un sursis de une ou deux centaines d'années. Bah oui, mais vient un moment où l'arbre cesse de croître et où il va peut-être commencer à cesser de vivre.
Oui, un arbre, ça naît, ça vit, ça meurt, donc et les espérances de vie des arbres sont très variables, entre les peupliers ou les bouleaux qui sont dépassent rarement la centaine d'années, et puis d'autres essences qui peuvent être multicentenaires, voire millénaires ou multimillénaires, comme certains vieux oliviers ou vieux châtaigniers.
On attend de l'ONF qu'il nourrisse les différents marchés du bois, je veux dire l'ameublement, le parquet, le carton, le papier, le bois énergie.
Oui, c'est tout ce qu'on appelle d'ailleurs la filière bois, qui est un concept qui a été mis sur place après la création de l'Office dans les années 70, où les ingénieurs ont commencé à réfléchir sur la situation du bois depuis la graine jusqu'aux produits les plus élaborés, les plus finis. Et il y a des produits multiples entre ce qui était toujours le cas d'ailleurs sous l'Ancien Régime aussi, la forêt et le bois, c'est un peu un matériau à tout faire.
C'est très difficile pour la pensée écologiste qui monte d'admettre qu'il faut abattre pour des raisons économiques et puis pour des raisons de simple santé démographique des forêts, les arbres. Il y a souvent eu des frictions aussi quand l'autre mission de l'ONF, il n'y a pas que produire, il y a aussi accueillir, a été mise en avant. Les forestiers, ils auraient eu tendance à dire devant les visiteurs « Allez, nous on sait circuler, il n'y a rien à voir ».
Et c'est vrai, et le chêne était un peu le cristalliseur de ces conflits, de ces oppositions. Le chêne d'ailleurs qui est omniprésent dans les forêts françaises, mais c'est pas totalement naturel. C'est justement les forestiers qui, depuis des centaines d'années, privilégient le chêne comme grand arbre, parce que c'est un arbre polyvalent qui fait du bon bois d'œuvre, mais aussi du bois de chauffage excellent. Donc c'est un bois qui est surreprésenté et en partie à cause de l'homme. Et les gros conflits, c'est à propos de ces vieux arbres, notamment quand le chêne Jupiter, qui était un des arbres remarquables de la forêt de Fontainebleau, a été abattu, ou j'étais récemment dans les grandes forêts de Colbert, entre guillemets, à Troncet ou à Bercé. Et là, on a des vieux chênes multicentenaires. Et les écolos veulent à la fois les garder comme arbres support de biodiversité, mais aussi comme arbres remarquables. Alors que c'est des arbres qui valent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros si on en fait de la tonnellerie, si on en fait du merrain pour faire les tonneaux, pour faire vieillir les alcools et les vins.
Alors vous faites partie du comité qui labellise les forêts d'exception. Vous diriez que les écolos, ils voudraient partout des forêts d'exception?
Oui, mais forêt d'exception, ça ne veut pas dire qu'on n'exploite pas. On essaie de...
Ah.
Les écolos, justement, la forêt d'exception, c'est une nouvelle gouvernance où il y a les randonneurs, les chasseurs, les associations de protection de la nature et où on discute. Et les écologistes, là, sont pas contre l'exploitation du bois, mais à condition qu'elle perturbe pas la faune, qu'elle détruise pas des stations floristiques précieuses, qu'on ménage les mares. Donc, la multifonctionnalité, qui est une originalité française, est possible. Mais il faut se mettre autour d'une table, il faut négocier, il faut arriver à du consensus, qui n'est jamais simple.
Multifonctionnalité, c'est comme pour France Inter, innover, fédérer et intégrer. J'ai du mal encore à m'en souvenir. Là, c'est produire, accueillir, protéger. C'est ce qu'on demande aux agents forestiers à partir du début de ce millénaire d'intégrer. Et protection et régulation de l'eau, stockage de CO2, bah oui, mais tenez, prenons ce cas, puisque vous êtes un biogéographe.
Tenez, puisqu'on parlait formule, ouais. J'appelais ça le système des trois pros. Produire, protéger et se promener.
Oui, c'est pas mal, oui, c'est pas mal. Mais alors, la fonction de rétention du CO2, néanmoins, il faut quand même abattre les arbres vieillissants.
Et c'est plutôt bien pour le CO2 si on remet des jeunes arbres, parce que les arbres vieillissants, ils stockent plus beaucoup de CO2. Ils poussent très lentement. Et au contraire, un jeune arbre, lui, a une activité de photosynthèse extrêmement forte et c'est lui qui stocke le plus. Donc, abattre un vieil arbre, c'est pas forcément mauvais pour le stockage du carbone, pour le bilan carbone.
Dans la fonction pro comme protéger Paul Arnoux, tout de même, la fonction de protection contre les risques naturels, l'érosion des montagnes, dans les montagnes, les inondations, ça joue un rôle de plus en plus important dans l'agenda de l'ONF.
Ça joue depuis plus d'un siècle, depuis le 19e siècle, où ont été construites les grandes forêts littorales, sur le littoral du landais, où il y avait des dunes qui gagnaient sur l'intérieur des terres et qui ensevelissaient même des villages. Là, on a fait des forêts de protection contre le vent, contre le sable. En montagne, où il y avait une érosion énorme, dans les Alpes du Sud, dans le sud du Massif Central, dans les Pyrénées, on a créé ce qu'on appelait la RTM, la restauration des terrains de montagne, qui a permis de créer des forêts absolument extraordinaires sur des têtes de bassin versant qui étaient ruinées par le surpâturage et une érosion violente.
Les zones de protection, il y en a eu en effet donc dans les Landes, il y en a à Fontainebleau depuis le 19e siècle, et il y en a autour de la Grande Chartreuse pour ménager le silence. Nous sommes là dans un massif de l'Isère. À propos de silence, est-ce qu'il y a vraiment du silence autour de la Grande Chartreuse? Non. Vous avez fait un travail sur le cinéma et...
Oui, j'ai participé à un collègue, ce qui s'appelle la forêt sonore, oui. Et où avec une collègue belge qui s'appelle Christine Farcy, qui est dans une structure qui s'appelle le JP Cofor, aussi de recherche française, on a fait un article tous les deux sur les bruits en forêt, à la fois les bruits d'oiseaux et la création d'une zone de silence. Et cette histoire de zone de silence, Christian Delaballe, qui a été le premier directeur de l'Office national des forêts en 64, explique que c'était un jour un peu comme aujourd'hui, un jour de l'ascension, c'était un jour de grève où il n'y a pas grand-chose. Et il y a le baron Bic qui était venu le voir, et ils se sont mis à discuter à baron rompu, et le baron Bic lui a dit...
baron rompu, je retiens l'expression.
Et lui a dit, vous avez quelque chose d'extraordinaire, vous, c'est vendre du silence. Et donc c'est après ça qu'ils ont créé des zones de silence en forêt, ce qui est un peu une aberration, parce que c'était le silence vis-à-vis de la circulation automobile.
Mais le silence, non.
Il n'y a pas de silence. Il y a des oiseaux, il y a des craquements, il y a des...
Nous avons un mot d'ordre, interactivité aussi. Eh ben, autrefois, sur France Culture, il y avait le concours des chasseurs de sons. C'était les auditeurs. Ici, c'est Jean-Marie Knapp qui offrait leurs enregistrements à l'émission pilotée par Dominique Callas de Ferluc.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Je suis à l'ONF depuis 22 ans.
Regardez-moi ça. Cette liberté, quelque part,
qui est impayable. Quand j'ai commencé, on avait un petit Minitel et on nous demandait de l'ouvrir une fois par semaine pour communiquer avec un chef ou avec la direction. C'est tout. Maintenant, on est au point où, si je n'ouvre pas ma boîte mail, un jour, je suis over quota, pratiquement. Donc, on passe actuellement, enfin pour mon cas, 2 heures par jour sur le bureau. tant qu'on ne passe pas en forêt.
Reportage d'Olivier Minot dans Les Pieds sur Terre et toujours à la marche de l'histoire. Paul Arnoux, géographe, nous parlons du rôle de régulation de l'État dans la vie des forêts. L'accélération dont témoigne cet agent forestier, elle tient aussi au dérèglement climatique, aux crises qu'il faut prévoir. On entendait Edgar Pisani se demander quel type d'arbre il faut choisir pour dans 100 ans. Maintenant qu'il y a transformation climatique, la question se pose de manière encore plus crue. Quelle espèce choisir ?
Oui, ça a des grandes questions débattues par les spécialistes. À l'Office des forêts et avec l'Institut national de la recherche agronomique, ils ont un programme de recherche qui s'appelle Giono. Giono qui avait écrit « L'homme qui plantait des arbres ». Et c'est un programme qui cherche à voir quelles sont les essences qui auraient leur place dans la forêt française pour remplacer celles qui vont être menacées par le réchauffement.
Certains disent que les arbres ont une capacité d'adaptation formidable et d'autres que les nouvelles conditions extrêmes auxquelles ils seront soumis menacent, je ne sais pas moi, le hêtre à Bellême ou à Brocéliande.
Surtout le hêtre dans le sud, à la Sainte-Baume ou en Corse. Mais c'est... La vie, effectivement, est extrêmement plastique, mais la forêt européenne, c'est quand même une forêt très, très appauvrie, hein, où, en fonction des multiples glaciations, on a nettement moins d'arbres que dans la forêt appalachienne ou que dans les forêts de Chine et de l'Asie du Sud-Est. On a une forêt où des arbres ont disparu. Mais en même temps, c'est vrai que les arbres ont une capacité, il y a des sous-espèces, des écotypes qui arrivent à faire face à des sécheresses prolongées, à des gels extrêmes, à des attaques... Et donc, vouloir à tout prix anticiper des changements d'essence, il y a un risque. On peut aussi supposer qu'un certain nombre d'arbres arriveront à s'en sortir. Sauf qu'ils n'ont pas la plasticité des animaux, les chênes, les glances et les jets qui les transportent. Généralement, ils ont des graines assez lourdes, les châtaignes aussi, ça va pas très loin du tronc de l'arbre. Et donc, pour qu'un arbre réussisse à bouger, à se déplacer, à retrouver de nouvelles conditions, c'est pas facile.
En tout cas, ce qui apparaît, c'est que la surface boisée a tendance à augmenter, mais que les revenus de la filière bois ont tendance à diminuer dans le produit industriel national, le produit intérieur brut plutôt. Excusez-moi de reparler d'économie, mais naguère, il y a encore 20 ans, l'ONF tirait 75% de ses ressources des ventes du bois, 30% aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que les prix descendent ?
Avant, c'était les enchères descendantes. Typique, quoi, un crayeur qui commençait par exemple à 100 000 francs une coupe et puis descendait 100 000, 99 000, 98 000, 97 000, 96 000. Puis quand il y avait un acheteur qui l'était dans son prix, il criait « prends », il avait la coupe à ce prix-là.
1800, 1600, 1400, 1200, 1000, 10 800, 10 600, 10 400, 10 200, 10 000. 9 900, 9 800, 9 700, 9 600, 9 500, 9 400, 9 300, 9 200, 9 100, 9 000. 8 900, 8 800, 8 700, 8 600, 8 500, 8 400, 8 700. L'eau adjugée.
Bon, on triche un peu, hein. C'est un extrait des Grandes Gueules, le film de Giovanni. Les enchères descendantes, ça ne se pratique plus guère. Mais c'était pour illustrer jusqu'au drame le fait que les prix du bois ont baissé. Je dis « on ».
Oui, je voulais dire que ces ventes de bois en chair descendante, c'était un spectacle absolument fascinant. J'y ai assisté dans la grande salle du cinéma à Laon, et avec toute la brochette des gens de l'office en grand uniforme, képi et tout, et puis ce hurleur qui donnait les enchères descendantes, et puis un acheteur qui arrivait dire son mot avant les autres en disant « prends », il y avait une charge émotionnelle extrêmement forte. Alors ça, c'est quasiment fini maintenant, c'est des lots. Il y a toujours des cahiers où on décrit le bois qui est à vendre par parcelle, avec sur telle superficie, le nombre d'arbres, le diamètre, le volume, et les acheteurs vont voir la qualité. Et ils soumissionnent, ils proposent, et c'est souvent le mieux offrant qui obtient le lot.
Mais les prix ont baissé ?
Mais les prix ont tendanciellement baissé, sauf si actuellement, depuis quelques années, il y a une reprise, notamment les prix du chêne grimpent énormément. Il y a des choses conjoncturelles aussi. À un moment donné, les Chinois sont venus acheter du hêtre en France. Il y a eu un boom sur les prix du hêtre. Mais les prix du bois sont très très sensibles à des fluctuations. Et actuellement, par exemple, les épicéas sont très très décotés parce qu'ils sont attaqués par des scolytes dans toute l'Europe, en Allemagne et dans la France de l'Est. Et donc, il y a d'énormes arrivages sur le marché et les prix ont chuté de moitié en quelques années.
Alors, à l'ONF, on dit, les ressources étant moins assurées, nos missions de conseil que nous vendons ne suffisant pas à faire l'appoint, la direction a tendance à vendre trop. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le membre du conseil scientifique de l'ONF ?
Dans le conseil scientifique, on ne se préoccupe pas de ce type de questions des ventes. On se préoccupe du carbone, du renouvellement de la forêt, mais pas forcément du modèle économique. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une volonté forcée de vendre à tout prix et de vendre les bijoux de la couronne. Bien au contraire, avec justement le souci de protection de la nature et puis d'accueillir du public dans une belle forêt, les pratiques forestières de coupe à blanc se sont énormément améliorées.
Donc vous, ce que vous défendez, c'est le modèle multifonctionnel. Alors que les industriels disent qu'ils ne devraient que produire et que certains milieux écologistes que vous allez qualifier de radicaux disent qu'ils devraient simplement protéger. Modèle multifonctionnel, pro.
Oui, les trois pros, ça vient de très loin en France, c'est un peu notre tradition. C'était le modèle multi-usage de l'ancien régime, maintenant c'est multi-pratique. C'est plus le ramassage des glands en forêt, mais il y a d'autres pratiques de randonnée, d'amusement un peu fun ou de choses très curieuses, très nouvelles. Mais arriver à concilier la fréquentation des endroits où on protège un patrimoine faunistique et floristique extraordinaire et puis quand même produire du bois parce qu'on a besoin de ce matériau écologique, moi, ça me paraît un pari qui est beau à tenir.
Occupez-vous quand même du modèle économique parce que la situation financière de l'ONF est telle et l'absence de dialogue social pendant un moment sous la direction générale de Monsieur Dubreuil, semble-t-il, a été telle que les manifestations se sont multipliées, les inquiétudes ont grandi.
Se discuter ce matin dans la salle du conseil d'administration le projet de contrat d'objectifs et de performance. Donc aujourd'hui, on va bien vers une privatisation de l'emploi, une fragilisation de l'emploi. Et qu'est-ce que trouvent la direction et les tutelles ? Eh bien, vendre les forêts domaniales.
Voilà, l'intersyndicale de l'ONF regroupe fonctionnaires et contractuels, ouvriers, ingénieurs et agents forestiers. Est-ce que j'ai dit que dans vos chères Vosges, à Épinal, le 7 juin, il y a une manifestation de l'intersyndicale ? Merci à vous, Paul Arnoux, Clément Berman à la technique, Ilinka Negulesco à la préparation, Audrey Ripouille à la réalisation. Et vous avez vu comment nous fédérons et intégrons Mathieu Vidard.
Oh, c'est impressionnant.
Paul Arnoux a déjà été votre invité plus d'une fois.
Voilà, alors après la forêt des Vosges, eh bien on va s'intéresser aux forêts tropicales dans la Tête au Carré et ses habitants en particulier.